Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio.
Ce qui est très difficile, c'est de prendre conscience qu'on est soi-même en dehors de la réalité.
Il faut distinguer dans cette maladie, encore plus que dans les autres, les symptômes tels que nous les observons et les symptômes tels qu'ils sont éprouvés.
J'ai le sentiment qu'il suffit parfois de quelques degrés pour passer de l'irréel au réel.
Il est important de rappeler qu'il n'y a pas des schizophrènes, mais des humains qui souffrent de schizophrénie.
Alors les premiers symptômes ont commencé pour moi quand j'avais 21 ans. À l'époque, je faisais une formation d'aide-soignant. J'étais avec un ami, je sortais de stage et puis je l'ai rejoint en ville, dans une petite ville où on habite en Lozère. Là, en fait, j'ai fumé un pétard avec lui et puis j'ai senti mon corps transpirer en fait énormément. Et je sentais en fait la peur, je sentais dans mon corps, c'est-à-dire que je la ressentais pas dans ma tête, mais mon corps montrait des signes d'angoisse en fait. Je me touchais les mains énormément, je transpirais et je ressentais le besoin de quitter cet endroit. Voilà, c'est un peu inexplicable, c'était viscéral quoi, une sorte de sensation de fuite. Et puis en sortant de chez lui, je voyais les gens rire dans la rue et j'entendais leur rire dans ma tête. Alors sur le coup, je pensais vraiment qu'ils riaient de moi, mais je me disais c'est quand même bizarre que des gens, ils étaient à 10 mètres de moi, j'entende leur rire aussi profondément dans ma tête, quoi. Et là, ça a accentué la bizarrerie, en fait. Mes jambes bougeaient malgré moi pour aller au moins jusqu'à ma voiture qui était à 500 mètres de là dans un parking souterrain, en fait. Et là, je prends la voiture et derrière moi, je vous vois dans mon rétro sur une voiture blanche, en fait. Et c'était incontrôlable, je ressens que cette personne me suit en fait, me suivait, et je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui me veut du mal, alors que je ne sais même pas qui était dans la voiture, mais c'était vraiment, sur le coup c'était vraiment viscéral, donc je commençais à chercher dans mes affaires dans la voiture, si j'avais pas une arme pour me défendre, je me suis dit, si jamais il t'arrête, tu te défends, tu te laisses pas faire parce qu'il veut ta mort, donc je tourne sur la gauche et je vois que la voiture me dépasse et continue sa route. Là j'ai ressenti à nouveau une sorte de soulagement. Et puis je suis rentré dans mon appartement et en fait je sais pas si je peux dire me réveiller, je sais pas si j'ai dormi, mais en tout cas je me suis réveillé le lendemain après-midi, donc c'était passé 24 heures. J'ai ouvert les yeux, j'ai senti comme si je me réveillais de quelque chose et j'ai vu que autour de moi le monde avait un peu changé. J'avais tout barricadé dans mon appart, j'avais jeté pas mal de choses, j'avais cassé mon ordinateur, sûrement un coup de pied ou de poing je pense. Et c'était un peu la panique, et puis tout qui m'a un peu fait sortir de ma léthargie, de blackout en fait, parce que je me rappelais de rien à ce moment-là. C'est quelqu'un qui toquait de manière assez paniquée à ma porte, et en fait il s'avère que c'était mon papa. Voilà, mon papa en fait il avait été appelé par l'IFSI, donc l'Institut de soins infirmiers, là où je faisais mes études, qui m'a appelé un peu en panique en disant « Ouais, Lucas il est pas venu en cours, il a pas prévenu, ça lui ressemble pas parce qu'il vient toujours, il est assidu ». Donc il a pris peur, il est venu voir de suite. Il a toqué, j'ai même pas pu lui ouvrir la porte d'entrée parce que je l'avais bloqué avec mon bureau. Donc il est rentré par la baie vitrée et puis il est venu me voir, il m'a dit « Mon Dieu », il a juste regardé autour de lui, il m'a dit « Ça va pas bien là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai juste dit réellement « Je sais pas en fait quoi, je sais pas, je savais pas où j'étais en plus. J'étais déboussolé, je me sentais vraiment... Un peu, vous savez, comme si on était dans un vertige ou dans un aquarium. Dans un aquarium, en fait. Tout était atténué, tout était très différent de, je pense, de ce qu'était la réalité, en fait, à ce moment-là. Et donc, mon père, voyant dans un état vraiment étrange, me dit, c'est ces mots étranges, c'est pour ça que je les emploie, il me dit, il faut peut-être aller aux urgences. J'ai pas réfléchi, il m'a pris dans sa voiture, on est parti direction les urgences. C'est à partir de ce moment-là, je pense que réellement, j'ai senti que mon esprit fonctionnait en deux parties. Voilà. Donc il y a une partie de moi qui était vraiment... je pense qu'il ne pouvait même pas réfléchir à ce qui se passait, c'était juste sans affect. Mais une autre partie de moi, voilà, je peux pas le dire autrement, était en panique parce que je savais pas ce que j'avais en fait. Et en même temps, je crois pas que j'avais envie que quelqu'un sache ce que j'ai tellement je me sentais dans un aquarium. Et puis là, arrivé à l'entrée des urgences, j'ai ressenti vraiment un truc que je vous disais, cette partie un peu en double, une sorte de craquement en moi, quoi. Et je me suis séparé de mon corps, je peux pas le dire différemment, mais comme si j'étais le caméraman de ma propre vie en fait. Donc je me voyais de dos ou des fois en contre-plongée, ça pouvait changer. Et j'avais aucune, entre guillemets, prise sur ce que je voyais se dérouler devant moi. Je ne contrôlais pas et j'avais peur de plus pouvoir revenir dans mon corps. Et en tout cas, bon, l'infirmière qui m'a, une jeune femme qui m'a accueilli aux urgences, qui était la secrétaire derrière sa petite baie vitrée là, m'a demandé la carte vitale et toutes les choses d'usage. Et là, bon, elle me met sur un lit de médecin, elle me dit « asseyez-vous là, le médecin va venir, restez tranquillement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, enfin, très gentille, très avenante. » Et puis, le médecin est arrivé, je crois qu'il m'a dit « bonjour, je me rappelle un peu de ça, bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous amène ?» Et mon père a répondu spontanément « je l'ai trouvé choqué, mais il peut pas, il parle pas en fait depuis. » Et le médecin a dit « très bien, en fait, il voulait tout simplement que je m'allonge pour m'ausculter, hein. » Il a mis sa main sur ma poitrine. Et ça, ça a été un contact vraiment terrible. Ce qui peut paraître fou de dire ça, je ressentais une brûlure, quoi. Il n'y avait plus de frontière entre, je pense, l'extérieur et l'intérieur. Donc spontanément, comme quelqu'un qui se brûle, j'ai eu le réflexe de le repousser. Et j'ai senti que je me rapprochais de mon corps, étrangement. Il est revenu, donc je l'ai repoussé à nouveau et mon père aussi a voulu, m'a juste dit, je me rappelle de sa voix, mais sa voix, vous voyez, elle résonnait aussi dans cette pièce, c'était pas comme s'il me parlait à côté de moi, pourtant il était à ma gauche en fait, j'étais allongé, il m'a essayé de me tenir, le médecin aussi, je les ai envoyés valser tous les deux. J'avais une force surhumaine, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, je me rappelle pas même avoir forcé, je me rappelle juste les avoir projetés les deux. Là, je me rappelle du branle-bas de combat, j'ai entendu le médecin crier, hein, tout simplement, « Vite, on a besoin d'aide, à l'aide !» Moi, j'étais interloqué parce que je ne voulais pas faire ça, mais j'avais pas de prise sur le fait de les repousser, c'était automatique. J'y assistais, je pouvais rien faire. C'est une sensation vraiment qui était assez terrible. Donc ils sont arrivés à quelques-uns, ils étaient 5 ou 6. Ils ont essayé de me tenir physiquement en fait, mais je les repoussais, mais pas, c'était pas méchant. D'ailleurs, je crois qu'eux-mêmes ne l'ont pas ressenti comme ça, mais ils pouvaient juste pas trop m'approcher. Mais par contre, je commençais à avoir des nuages qui sortaient d'eux réellement, c'était ça, des nuages de couleur en fait qui sortaient d'eux. C'est comme si je voyais toute l'angoisse de la pièce. Là, moi, je l'associais vraiment comme ça sur le moment. Je me suis dit, c'est leur mauvaise énergie qui plane. C'était des nuages jaunes, violets. C'était une couleur bizarre. Des nuages de peinture un peu qui enveloppaient tout ça. Et c'est comme si quelque chose tout montait, en fait. C'est-à-dire que mon angoisse, il la ressentait. Leur angoisse, je la ressentais. Et je crois que ça accentuait ce truc-là de... Enfin, je pense que c'est une hallucination, mais sur le coup, c'était pas vécu comme ça. Sur le coup, je me posais pas la question, en fait, de si ce que je voyais était réel ou pas. Par contre, j'ai réintégré mon corps à ce moment-là, vraiment, et c'est comme si j'entendais le bruit d'un craquement dans ma chair et mes os. Et en fait, ils m'ont allongé, ils m'ont attaché, ils m'ont juste dit calmement, vous comprenez bien qu'on va devoir vous piquer, juste pour en fait vous apaiser, parce que vous n'êtes pas en forme là et tout. Et je me rappelle que je leur disais juste, je veux que ça s'arrête. Voilà, c'était très éprouvant physiquement de vivre ça. J'étais contracté à tel point qu'ils m'ont dit, on peut même pas implanter l'aiguille tellement vous êtes dur, vous êtes raide. Et puis en fait, il y a un infirmier, il m'a attrapé la main en fait, très doucement, et puis il a eu une réflexion qui, je pense, m'a vraiment aidé à me calmer, parce qu'il m'a dit, mais vous vous appelez comment et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et c'était vraiment au milieu de cette pagaille, c'était quelque chose de dissonant, quoi. Ça avait été vraiment le bordel jusque-là. Fallait voir la chambre avant et après mon passage, on va dire. Mais là, ce mec-là qui sort ça, j'ai eu plus ce truc de vouloir fuir ou quoi. Juste, il m'a attrapé la main. Et j'ai répondu calmement, je me rappelle de ça. Bah, je m'appelle Lucas, j'étais en stage au-dessus, machin. Pour moi, ça a été une figure très rassurante, ce monsieur. Pendant qu'il me parlait, une autre infirmière, elle m'a dit, vous êtes calmé, je vais pouvoir vous injecter le produit, ça va vous détendre et tout. J'ai pas eu mal du tout. J'ai rien senti, pour être honnête, j'ai même pas senti. J'étais dans moi, mais je sentais pas mon corps à ce moment-là trop encore. Et voilà, et puis elle m'a dit, voilà, vous allez sûrement vous endormir un peu. Tout était plus calme. Le médecin a dit, bon. Il est sorti avec mon papa de la salle. Moi, j'étais allongé sur le lit, il y avait une sorte de vitre, donc je voyais les deux discuter, mais j'entendais rien. Un peu comme dans les films avec les policiers, c'est bizarre, mais il y a un truc un peu comme ça où on se dit, putain, il raconte quoi derrière la vitre. Là, c'était pareil. J'étais allongé, mais je me disais juste, putain, ça sent pas très bon là quand même, parce que qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais là? Le médecin est rentré avec mon père et le médecin il a dit, voilà, je vais être obligé de signer une hospice en psychiatrie. Et sachez que si moi je le fais, ça va être après, vous aurez affaire aux représentants de l'État, c'est eux qui décideront si vous pouvez sortir ou pas, parce que vous m'avez quand même frappé. Le médecin a avoué, je conçois que c'était pas voulu, il me l'a dit même clairement, mais par contre, voilà, c'était, vous comprenez bien que je peux pas. Et mon père, il m'a dit, il a eu démontré juste, il m'a dit, quoi qu'il arrive, ça t'appartient, donc moi je signerai rien si t'es pas en accord avec le fait de signer. Là, j'ai connu un regard que j'avais jamais vu. Et c'est ce regard-là qui m'a fait me dire, bon, bah, je vais chez les fous, quoi. Alors en plus, en Lozère, vous savez, on n'a qu'un hôpital qui a une histoire assez connue dans toute la France, c'est Saint-Alban. Chez nous, quand on était gosses, on disait, si tu fais le mariole, si tu fais n'importe quoi, on va t'envoyer à Saint-Alban, quoi. Donc il y avait une connotation un peu comme ça. Je me dis, putain, je vais enfin voir ce qu'il y a à Saint-Alban. Mais le enfin était vraiment... c'était pas un bon enfin. Mon père est parti, je suis resté dans cette chambre, mais j'étais shooté, je sais pas ce qu'ils m'ont donné, mais c'était bon. C'était, franchement, je me rappelle la sensation, c'était bon. J'étais dans un lit de coton, je me posais plus de questions, psychiatrie, monde, j'étais là juste posé là, et dans une sorte de brouillard. Et un chauffeur de taxi est venu me chercher en fait, hein, qui en fait a été super tout le long, hein, qui m'a dit bon, ben, bon courage quand il m'a laissé là. Parce que je suis arrivé à l'hôpital Saint-Alban, ça avait vraiment la gueule comme on se fait dans les films, c'est-à-dire le sol carrelé, marronasse, avec à l'entrée des grilles, mais les grilles un peu rouillées, ça donnait pas la moindre envie d'aller, enfin, personne n'a envie d'aller à l'HP, mais alors là. Un soignant est venu me chercher, un grand type. Monsieur Aiguille, on nous a prévenu. Il m'a dit, bon, vous allez voir le psy un petit quart d'heure là, mais après, je vais vous montrer un peu. Et puis il a été très prévenant. Il me dit, c'est la première fois que vous venez, ok. Et il m'a dit, vous avez faim. Et là, d'un coup, je me suis rappelé. Je fais, ah ouais, j'ai faim en fait. J'avais oublié ça alors que je ne sais même pas si j'avais mangé la veille en fait. Hein. Ça faisait plus de 24 heures que j'étais sans manger. Il me dit, il reste des lasagnes. Et à ce moment-là, j'étais tout seul dans la salle avec lui, il m'a donné à manger la lasagne, il m'a dit « mange tranquillement, après on ira voir le psy ». Et puis là, l'infirmière est revenue vers moi, il m'a dit « on va aller voir le docteur, on peut l'appeler docteur R, qui était un médecin malgache, d'origine malgache ». J'ai pu lui raconter en fait ce que je vous ai raconté là, sauf que il y a certains détails que j'ai pas voulu mentionner, notamment le fait de voir des nuages de couleur ou le fait d'être sorti de mon corps. Parce que je considérais que le reste était fou, en fait. Il m'a dit, ok, très bien. Il m'a dit, bon, je vais vous donner tel médicament. C'est les régulateurs de l'humeur, à l'époque. Et il m'a dit, c'est parce que je pense que ce que vous avez fait, et ce que vous avez peut-être sûrement, c'est ce qu'on appelle une phobie sociale. Donc, quand le médecin vous a touché, vous l'avez vécu comme une agression très forte, et du coup, vous avez réagi en conséquence. Et il a dit, bon, vous avez quand même agressé un médecin... Alors ça m'a de suite fait voir un peu rouge, je pouvais pas m'énerver, j'étais encore shooté par le médicament qu'on m'avait donné aux urgences, mais je l'ai vu rouge, je me suis dit, mais je l'ai pas agressé en fait, c'est lui qui aurait dû me dire qu'il me touchait, mais je me suis dit, en fait, si tu t'énerves d'entrée là, tu vas rester ici en fait, donc je me suis dit, bon, je vais juste faire profil bas, il est très bien, donc je reste combien de temps? Il me dit, là, vous êtes en observation pour 15 jours au moins. Alors moi je m'attendais à ce qu'il me dise, vous restez là 3 jours et c'est réglé quoi. Alors j'étais un peu dans la désillusion, quoi. Je dis, oh mon Dieu. Et il me dit, moi c'est le minimum, déjà pendant une semaine, là vous allez pas pouvoir sortir en fait. Donc j'ai vécu ça quand même de manière agressive, et je pense que n'importe qui, si c'est pas expliqué, peut le vivre de telle manière en fait. Il m'a dit, je te dis, c'est que votre cerveau est trop stimulé là, donc il faut plus de téléphone pendant 3 jours au moins, pas de visite pendant 3 jours. Et puis après, au bout de 15 jours, ça s'est bien passé. Le psychiatre m'a dit, bon, ben normalement, je peux que vous souhaiter une chose, c'est de ne pas vous revoir. Je vais vous aiguiller vers des soins quand même en CMP, centre médico-psychologique, je crois, il me semble. Et voilà, et puis vous verrez un psychiatre là-bas, ce sera peut-être moi, je sais pas encore, et une infirmière, plus une ergothérapeute, il y avait tout un suivi. Donc voilà, j'ai fait bon, bah, très bien. Le médicament me convenait bien parce que c'était pas quelque chose qui me sédatait, et c'est vrai que ça m'apaisait, il y avait une forme d'apaisement. Et puis je suis reparti ben, dans ma vie en fait, dans ma formation d'aide-soignant, comme si j'avais été, parce que c'est vrai que je me sentais pas mal. Et je suis retourné en cours, ça s'est bien passé, et puis après je suis allé en stage. Et en fait, premier jour super, et deuxième jour, là, des membres de l'équipe viennent me voir et me disent... Ils étaient inquiets pour moi, je le voyais dans leur regard, et ils me disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont parlé de mon regard. Ils m'ont dit « tu as le regard qui est étrange ». Alors j'ai dit « mais étrange, comment ?» « Ben, t'as le regard noir, très noir. » Et apparemment... je finissais pas mes actions. Je rentrais dans une chambre faire un truc. Je devais m'occuper de me faire une toilette à une personne. J'arrivais, je posais les affaires, je commençais à déshabiller la personne et je partais. Mais ça, moi, je m'en rendais pas compte, c'est eux qui m'ont dit. Et ils ont été super cool et tout. Mais tu vas bien, enfin. Ils m'ont posé des questions, vous savez, comme on pose souvent quand on voit que nos proches vont pas bien, ça va bien à la maison, un peu comme on voit dans les films, les trucs un peu. Et puis moi, je me suis mis à entendre là, pour le coup, des voix, voilà. Trois voix en fait, voilà. Une qui disait des choses indistinctes, c'était des chuchotements, et une voix d'homme et une voix de femme. C'est comme si à ce moment-là, j'avais quelqu'un, trois personnes en fait, dans ma tête qui faisaient leur vie propre en fait, qui parlaient, qui me coupaient la parole, ou qui m'insultaient, ou qui commentaient ce que je faisais. Et là, j'ai commencé quand même à. Je me suis dit, c'est pas très bon parce qu'en plus, là, je peux pas me faire mon stage convenablement. C'est quand même en aide-soignant, il y a des personnes en face, il y a des personnes âgées et tout. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir m'en occuper correctement. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et puis après, je me suis dit, il faut que j'aille aux urgences, c'est pas normal. Et il s'avère qu'il y avait une copine à moi de la promotion aide-soignant qui était sur le même lieu de stage avec moi, qui s'appelait Justine. Qui en fait, m'a dit, mais moi, si tu veux, je t'amène aux urgences de suite et tout. Et là, je ne pouvais pas trop lui répondre parce que ça coupait, si vous voulez. C'est-à-dire que je pouvais commencer à lui parler, mais les voix complétaient ce que je lui ai raconté. Ou quand elle me parlait, les voix coupaient parce que je les entendais comme j'entendais le reste. Donc en fait, ça coupait toutes les discussions. Je lui ai dit, j'ai mis mon doigt sur mon nez. Puis on est arrivé aux urgences. J'ai vu un autre psychiatre, c'était pas le même, mais qui avait mon dossier sous les yeux, etc. Qui avait déjà, du coup... Et je lui ai raconté, je lui ai dit, bon voilà, écoutez, j'entends des voix et tout ça. Et il m'a regardé un peu gravement, il m'a dit, bon, hospite. Je lui ai dit, bah, hospite. Puis là, j'y suis resté 2 mois. Parce qu'au fur et à mesure de cet hospite, en fait, les voix ne se sont pas calmées. Elle me disait à l'époque des choses vraiment violentes, quoi. C'était du genre... même quand elle se battait entre elles, et puis des fois, elle me disait, tout simplement... suicide-toi, attrape les draps de ta chambre, accroche-toi la tête là, et puis tu casses ta nuque d'un coup, enfin, tue tes copains, tue tes parents, et suicide-toi avec, mets le feu partout, regarde, ils t'enferment tous, ils méritent que ça de crever, enfin voilà, c'est des choses vraiment dures. Je pouvais plus dormir du coup. Les voix ne s'arrêtaient pas la nuit. Hein. Au bout de 5-6 jours sans dormir, eh ben, j'avais plus de prise sur ce qui se passait. Ce que je me rappelle, c'est qu'on m'a donné des doses de cachets énormes, de médicaments énormes, pour que je trouve moins le repos, mais en fait, qui est ni plus ni moins qu'une camisole, quoi, d'un chimique, réellement. J'étais enfermé dans mon corps, et puis à tel point qu'il y avait des soignants qui devaient me donner à bouffer, comme si j'étais un vieux grabataire, parce que je me bavais dessus. Je ne pouvais plus me laver, tellement j'étais pas en capacité de faire quoi que ce soit, et puis je bavais à table, quoi. J'ai 21 ans, et je suis là à baver. Je sais ce qui se passe, je le ressens, mais mon corps ne m'obéit plus parce qu'il est endormi par des drogues, en fait. C'est ça qui se passe. Alors ouais, les voix se sont tues, mais en fait, ce vide-là, qu'est-ce qu'il remplace, du coup? Les voix, quand elles partent, elles laissent un vide. Et qu'est-ce qui remplace ce vide? J'ai découvert vraiment ce que c'est l'ennui. Le vrai ennui, quand on est dans le monde, on ne sait pas ce que c'est avant de passer par l'HP. Et en fait, je m'ennuyais tellement, j'avais surtout tellement pas envie de raconter ma vie à quiconque, que je m'asseyais sur mon banc fumant des clopes à la chaîne. J'imaginais que la fumée qui s'échappait comme ça, c'était moi qui m'envolais de cet endroit, en fait. Et puis petit à petit, bah, le médecin m'a dit bon ben on peut programmer la sortie. Donc j'ai fait une sortie en fait pour un week-end avec mes parents et ça c'est pour tout le monde ça s'est bien passé sauf pour moi en fait parce que moi j'étais fatigué, je me retrouvais absolument pas, je retrouvais pas le Lucas d'avant. Avec la fatigue, je veux dire, je peux prétendre à rien. J'ai aucune envie à part fumer des clopes. Voilà, j'ai ressenti, c'est le début du désert en fait, le début d'un grand vide. Un grand vide et je commençais à me dire ma vie ça va être ça en fait. J'ai même eu des soignants qui m'ont dit avec la maladie que t'as, prépare-toi à faire des allers-retours ici. Dès que j'entendais les voix très violemment, et ben j'ai dû être hospitalisé assez vite parce que dans ma vie, c'est-à-dire il se passait plus rien et comment les voix, même si elles étaient moins fréquentes, elles étaient là, elles étaient toujours violentes. Je me disais, à part les écouter, c'est ouais, j'ai rien d'autre à faire. Je sentais, je sais pas comment vous dire, que si je faisais ce qu'elle me racontait, ces voix, ça me soulagerait. Enfin, je veux dire, quand elle me demandait à la limite de prendre ma tasse et de la poser sur la gauche plutôt que sur la droite, je pouvais le faire, ça, c'est facile. Quand elle m'a demandé de, je sais pas, de dégorger ma mère ou mon père, évident que ça m'a fait peur, en fait. De speed, j'en ai connu 8 en tout. C'est au bout de la quatrième que le psychiatre m'a dit un jour « je veux vous voir ». C'était 19h le soir, c'était tard, il faisait nuit même. En tout cas, il me fait venir, donc il me fait rentrer. Il y avait un infirmier avec lui et le psychiatre que j'avais vu à Saint-Alban, c'est-à-dire le fameux médecin malgache avec sa pommade et ses yeux perçants. Et il m'a dit « asseyez-vous » et puis il m'a dit « bon, ben voilà, c'est vrai que là, ça fait 4 hospices que vous êtes là, on vous voit souvent et tout et... Mais est-ce que on vous a parlé de ce que vous avez? Je lui ai dit, en fait, moi, honnêtement, j'aimerais savoir ce que j'ai, quoi. Parce que, bon, j'ai entendu parler de psychose atypique, de trucs, mais ça me dit rien, je ne sais pas. Et là, il m'a dit, bon, monsieur, oui, vous avez sans doute une schizophrénie, en fait. Et là, je l'ai regardé, je m'en rappelle, j'ai ressenti surtout comme une sorte de poing dans le ventre. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, je suis pas dangereux. Il m'a juste dit, ah non, c'est absolument pas la question, de toute façon. Il dit, non, vous êtes pas là. Qui est dangereux, qui ne l'est pas, je saurais pas vous le dire. Mais ce n'est pas. Il a été, en fait, très pédago et surtout très, très en phase avec la réalité des chiffres aujourd'hui qui montrent qu'effectivement, il y a plutôt, c'est plutôt l'inverse, en fait. Personnes qui passent par ces cases-là sont souvent bien moins violentes que celles présentes dans la population générale. Et puis, voilà, il m'a dit, je vous laisse un peu encaisser tout ça, et puis on en rediscute demain. J'avais 23 ans. Ouais, 23 ans. Et des fois, je ne voulais pas y croire à cette maladie, en fait, à ce trouble. Ouais, j'ai pas envie d'y croire, et je me dis, tout ça ne correspond pas, en fait. Mais le fait est que les voix étaient là, était quand même moins là, mais en fait j'ai voulu les réentendre, les voix, même si c'était agressif, donc j'ai arrêté mes traitements parce que je pense qu'elles me blaient, m'empêchent mon quotidien, mon vide en fait, et que de ne plus avoir un peu comme ça enlevé par les médicaments, c'était pas naturel non plus, et ça m'a vraiment décontenancé, donc j'ai arrêté mes traitements comme beaucoup font en fait, 3-4 fois en tout dans mon parcours. Et quand je les arrêtais, je ressentais un regain de... Bah, du coup, les voix revenaient, mais je ressentais aussi un regain d'émotion, de plein de choses. En fait, ouais, les voix étaient à ce moment-là très... vraiment toujours dans la violence et la colère. Et en fait, c'est un psychiatre, un jour, que je suis allé voir, qui m'a dit, mais est-ce que vous mettez en colère dans la vie? Et je m'en rappelais plus, en fait. La dernière fois, j'avais été en colère, mais ça devait remonter pour que je m'en rappelle pas du tout. Et il m'a dit, mais en fait... peut-être que les voix sont l'expression de votre colère, en fait, que vous autorisez tout simplement pas, en fait, à avoir dans votre vie. Or, la colère, moi, j'associe la colère à quelque chose de négatif. Il me dit, mais la colère, en fait, elle sert, hein. Elle sert à quelque chose. Si on a une émotion comme la colère, c'est qu'en fait, c'est pas pour rien. C'est pour mettre des limites, c'est pour intimider, si on a besoin, entre guillemets, dans la nature. Enfin, voilà, c'est pour avoir de la force. C'est le conflit, en fait. Le conflit peut servir un peu. Et là, je suis sorti de là et j'ai réalisé ça. J'ai fait ah ouais, c'est pas con. Ça m'a poussé, enfin ça m'a permis de me dire faut que j'accepte du coup une forme de violence que j'ai en moi. Et j'étais pas du tout en accord avec ça pendant longtemps, mais ça m'a énormément aidé justement de me dire, mais en fait, c'est la colère, donc il faut que je les écoute, il faut que je leur réponde à ces voix, il faut qu'en fait, j'en prenne compte. Mais d'une manière, pas dans une forme de contrainte, plus comme faisant partie intégrante d'un tout, et qu'elles sont pas là pour rien, et en fait, c'est pas inconnu. La sensation est inconnue d'entendre des voix, mais ce qu'elles me disent n'est pas inconnu. Ça vient bien de ma tête. Et donc, j'ai commencé en fait à voir ça différemment et à les considérer en fait. Petit à petit, ben, à leur parler, à leur répondre, même à les envoyer chier, clairement. À dire, oh, là, c'est bon, là, quand elle s'agitait trop, mais enfin, j'entends des trucs du genre, ouais, tue-le et tout. Je dis, ah, t'es bien mignon là, mais si je tue quelqu'un là, en fait, j'ai plus de vie, moi, je suis en toi. Je répondais comme ça en fait. Et bon, ça pouvait être un peu déstabilisant pour mes proches, mais je crois que le voix haute est indispensable en fait. Je peux répondre dans ma tête, mais le voix haute, ça fonctionne mieux. Et ça m'a vraiment permis d'avoir, maintenant, de vivre en tout cas en harmonie avec ces voix, ouais. Ouais. Je peux le dire que je vis en harmonie avec quand même. Je dois être vigilant. En fait, c'est après plusieurs années d'hospice, enfin d'aller-retour à l'HP, mes parents n'en pouvant plus, regardaient une émission qui passait sur la 5, c'était le journal de la santé. C'était une émission spéciale sur la schizophrénie. Et il y avait un professeur, le professeur Lançon, qui d'ailleurs travaille à Marseille, qui parlait en fait de la schizophrénie, mais surtout des personnes qui l'accompagnaient. Déjà, rien que de dire ça, personne accompagnée et non pas malade ou patient, rien que ça, ça les a vachement, ça leur a plu. Quand les choses sont bien faites, en fait, beaucoup de personnes gagnent quand même en qualité de vie et peuvent vivre une vie, en tout cas, satisfaisante, quoi. Donc mes parents, en fait, ont été vraiment assez interloqués, mais dans le bon sens, par ce monsieur. Donc ils ont appelé ce monsieur et puis ils m'ont évoqué l'idée d'aller le voir là-bas à Marseille. Je les ai envoyés chier, quoi. Je leur ai dit, ah non, vous êtes bien mignons, mais j'irai jamais là-bas. Mais ce que je sais pas, c'est qu'en fait, ils l'ont fait en douce. Un jour, je les vois débarquer chez moi. À cette époque-là, je vivais avec ma sœur jumelle. Donc, mes parents arrivent, et tout content en fait, et ils me disent, ouais, Lucas, on est allé au final rencontrer le professeur Lançon à Marseille. Il a dit que ça serait bien en fait de me voir parce qu'il pense que je pourrais gagner en qualité de vie. Moi, je conduisais plus. Il a dit, c'est déjà rien que ça, c'est pas normal que je conduise plus. Enfin, il avait beaucoup d'après ce qu'a évoqué mes parents, il pourrait faire des choses pour moi. Il leur a parlé du professeur Lorca, qui est un pote à lui, qui est sur Clermont-Ferrand. Or, il s'avère que Clermont-Ferrand, c'est déjà une ville que j'avais un peu fréquentée. Mais j'étais pas très chaud en fait. Et c'est là où j'ai vu la déception et les larmes dans le regard de ma sœur déjà, et de mes parents. C'est la première fois en fait, je crois, pas que je les voyais tristes, mais que je percevais leur tristesse, que je la ressentais et que je me disais, ben moi j'ai pas envie de le faire pour moi du tout en fait, parce que j'y crois pas trop, je sens qu'on va encore m'enfermer dans quelque chose. Mais eux je les aime, autour de moi ils sont là, et si je le fais pas pour moi, je vais essayer de le faire pour eux. Alors j'ai dit, bon, ben clairement, on tente le coup, en fait. Donc, j'ai intégré le dispositif dans lequel je bosse aujourd'hui, qui s'appelle les centres experts. C'est un dispositif, c'est un mot barbare, centre expert schizophrénie, c'est ça l'appellation. Dans ce cadre-là, j'ai eu des évaluations. Le but, c'était quand même de voir dans quel état psychique je me trouvais, même cérébral, parce que quand même ce qu'on appelle les décompensations, les crises psychotiques, ou moi ce que je dirais tout simplement psychotées ou dévissées, j'aime bien dire dévissées, souvent quand on dévisse, ça engendre des dégâts physiques sur le cerveau. C'est peu connu, mais c'est pourtant vrai. Donc c'est aussi faire un état des lieux de la carte de mon cerveau, comment il marche. Il y avait cet aspect-là, mais il y avait l'aspect aussi du coup rencontre avec des psychiatres qui voulaient reprendre tout l'historique, tout mon parcours et tout ça. Et aussi voir effectivement si le diagnostic était, pouvait être remis en question, si c'était vraiment celui-là, et en fonction, qu'est-ce que moi je voulais faire et qu'est-ce qu'on pouvait faire. En tout cas, j'ai rencontré là une psychiatre qui m'a reçu pendant 2 heures. Et en fait, cette personne m'a dit tout simplement, mais en fait, excusez-moi, mais je vous coupe, mais est-ce qu'on vous a dit que vous pouvez aller mieux ? Là, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Je l'ai regardé, comment ça ? On vous a dit qu'en fait, vous pouvez, il y en a qui parlent de rémission, mais vous pouvez vous rétablir en fait. Et je me suis aperçu de ça, c'est que quand même en 8 ans de suivi, on n'avait jamais évoqué cette possibilité-là, en fait, que je pouvais aller mieux. Je suis sorti de ce service et j'ai pleuré. Et ça faisait des années que je n'avais pas pleuré, je ne savais même pas dire quand c'était la dernière fois. Et en plus, le luxe, c'est que j'ai pleuré des larmes de joie. Il y avait un truc qui s'est débloqué. Je me suis dit, si je peux aller mieux, c'est déjà pas pareil de savoir ça. C'est à partir de là, je crois, où il s'est vraiment passé quelque chose, où c'est un moment vraiment important. C'est le moment de mon rétablissement, c'est celui-là. Le premier. Je crois que c'est ce moment-là, en fait, a rééveillé ma curiosité. Ce qui, c'est une qualité dans ce cadre-là, parce que je me suis à nouveau repenché sur mes crayons, moi qui dessinais depuis. Et je pense que ça a été un très bon moyen, justement, d'appréhender mes émotions et de comprendre qu'est-ce que je ressentais quand je n'avais pas accès, de pouvoir les mettre sur du papier. Ça m'a permis de réinvestir le sport sous un côté beaucoup plus doux avec moi-même. En fait, en sortant de là-bas, j'ai toujours voulu faire de la danse. Et j'en ai jamais fait pour la bonne et simple raison que je me suis dit, je suis un mec, il y a un mec qui danse, et en gros, c'est dans mes représentations un peu arriérées de l'époque, c'était un mec qui danse, c'est un faible. Je me suis dit, de toute façon, vu là où je suis là, devant cet HP, je fais pas partie des forts, mais être faible et fort, c'est pas vraiment important, quoi. Je me dis, je vais faire de la danse. Ce qui m'a, moi, apporté beaucoup à Clermont, c'est l'approche de groupe. Grosso modo, c'est la schizophrénie, c'est quoi. Moi, ça a été un vecteur fabuleux d'espoir de pouvoir en fait me rendre compte que j'étais pas tout seul à vivre ce que je vivais et que surtout d'autres personnes avaient développé des stratégies aussi. Elles entendent des voix, elles écoutent la musique. D'autres, certains leur répondent, leur écrivent. Ou d'autres, c'est tout simplement disent ce que les voix disent et l'enregistrent et réécoutent et se disent après, oh putain, c'est complètement con. C'est pas tant le fait que c'est une stratégie ou c'est pragmatique, mais c'est que ça permet d'en rire. Personne n'a de savoir absolu, je pense. Alors en psychiatrie, encore moins. Hein, je veux dire, c'est le fait que chacun ait ses stratégies et les partage avec d'autres. Parce que ce qui marche pas pour un peut marcher pour l'autre, mais que je considère, moi, encore aujourd'hui, que le savoir, c'est le pouvoir. Même aujourd'hui, moi, je le sais, je suis au clair avec ça. Si je décompense, que je repars à l'HP, je suis sûr d'une chose, c'est que je le vivrai beaucoup mieux que ce que j'ai pu vivre jusque-là. Parce que j'ai les armes maintenant. Les voix, je les appelle souvent les orateurs. Et ma schizophrénie, moi, j'ai donné le nom de... C'est mon colocataire turbulent, quoi. C'est un moyen pour moi de rationaliser, de rendre ça un peu ludique, on va dire, un peu drôle. C'est pas être en guerre contre des choses, c'est plutôt se battre pour ce qui va. Ouais. Moi, je le résumerai au final comme ça. Aujourd'hui, je suis père aidant. Et je peux vous dire aujourd'hui encore, il m'arrive de travailler dans le bureau où on m'a annoncé mon déclic. On peut dire ce qu'on veut, mais quand même, ça fait du bien à la fierté, quoi. J'ai envie de poser le mic et de dire, ouais, c'est bon, je m'en suis pas mal tiré.
Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Adélie Pojman-Pontet. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi.